Donc, je vais être bref et tout simplement, mon discours ce matin va être appuyé sur la parole de Dieu, sur la Bible. Alors, je vais fermer la porte parce que là-bas, il y a des... Là-bas, c'est la fête, là. Hein? Ça va? Alors, tout simplement, en tant que pasteur, la question qui m'est le plus souvent posée, c'est... Si Dieu est amour, pourquoi y a-t-il tant de souffrance? Et si on réfléchit, on s'est tous posé cette question. On s'est tous posé cette question. Et encore une fois, la Bible nous parle de ça. La Bible est claire sur le sujet. Elle n'essaie pas de nous vendre un évangile à l'eau de rose, une humanité magnifique et merveilleuse. La Bible est claire et nous parle du cœur de l'homme, que le cœur de l'homme est tortueux, que le cœur de l'homme peut avoir des chemins bien, bien destructeurs. Et tout l'Ancien Testament nous parle de ça, le Nouveau également. Alors, finalement, d'où provient toute cette haine, cette colère, ce racisme, toutes ces tensions sociales, toutes ces choses qu'on vit actuellement et qui ont été vécues siècle après siècle? D'où ça provient? D'où est-ce que ça vient? Et finalement, quand on y réfléchit bien, Dieu nous a parlé de ça. En Genèse, il nous a parlé de ça. Il nous a dit, voilà, je suis le créateur de toutes choses. Je suis le créateur des cieux et de la terre. Et la Bible nous dit que, eh bien, un jour, un ange est venu devant Dieu. Cet ange s'appelle Lucifer. Et lui, il a dit, je serai plus haut que Dieu. J'aimerais être plus grand que Dieu. Et Dieu, dans sa justice, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchu Lucifer. Est-ce que, Chanel, tu peux me donner un peu d'eau? Parce que je risque pas de faire 5 minutes, là. Sinon, je vais plonger. Alors. Alors, Lucifer arrive. Et puis, on voit que Adam et Ève sont là. Dieu dit que la création est bonne. Il fait l'homme et la femme. Il crée toutes choses. Et puis, il y a une relation particulière avec l'homme. Une relation exceptionnelle. Tous les soirs, Dieu vient dans le jardin et il parle avec Adam et Ève. Et il leur a donné un commandement, ne touchez pas à cet arbre. Cet arbre est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous mangez de cet arbre, eh bien moi là, je ne pourrai plus rien pour vous. Première désobéissance, que fait l'homme? On connaît tous cette histoire, il croque là. Sauf qu'on ne sait pas si c'était une pomme. Ce n'est pas biblique ça. Alors, mais c'est l'histoire qu'on connaît. Et l'homme croque cette pomme. Entre guillemets. Attendez. Hein. Alors, l'homme croque cette pomme. Et là, c'est le premier acte de désobéissance de l'homme et Dieu. Alors qu'ils bénéficiaient de cette relation, qu'ils pouvaient parler avec lui, il n'y avait pas de problème au niveau de leur corps, de leur pensée, il n'y avait pas de colère, il n'y avait pas d'animosité, tout ça n'existait pas à ce moment-là. Et l'homme, eh bien, cède. Satan vient, eh bien, il séduit l'homme. Et là, l'homme devient quoi? Devient esclave de Satan au travers des pensées. Pourquoi? Parce qu'il cède, il désobéit. Et la Bible nous dit clairement en Romains 3, 23, 24, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mais le premier verset, le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est très clair. Alors peut-être que moi, quand je vous regarde, vous avez tous l'air très sympathique. Bien habillé, voilà, propre sur soi, tout va bien. Et puis peut-être que du niveau du point de vue de vos amis, vous êtes quelqu'un de très bien. Quelqu'un de très bien. Vous aidez constamment, vous êtes gentil, et puis tout va bien dans votre vie. Et peut-être que vous-même, vous vous dites, mais moralement, je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Je suis plutôt dans la moyenne haute. Dans ce monde, il y a des gens qui font bien pire que moi. Il y a des gens qui sont vraiment, c'est vraiment une catastrophe ce qu'ils font. Et on se permet même de juger les autres et leurs actes. Mais tu te rends compte ce qu'il fait celui-là? Mais il peut pas faire ça. C'est impossible. Et on se permet même de juger notre prochain. Ça, c'est l'homme. Sa nature. Et on a entendu dans le témoignage de Stacy qui nous a dit, elle aimait son mari. Elle avait un amour fou pour son mari. Et pourtant, autant elle était capable de l'aimer, et puis du jour au lendemain, elle était capable de le détester. Ça, c'est la nature réelle de l'homme. Peut-être que vous vous croyez bon, supérieur, meilleur. Et puis dès que vient une crasse, une petite queue de poisson, hein, sur la route, et là, vous commencez à vous énerver. Et vous pouvez constater que cette souffrance qui est au niveau mondial, on la vit en nous. Il y a une dualité dans notre cœur. Cette dualité, c'est la dualité de, on a envie de faire le bien, mais on n'arrive pas, on fait constamment le mal. On retombe tout le temps. On retombe tout le temps. On a des faiblesses, chacun sa faiblesse. On a des forteresses intellectuelles, des pensées. Et on les suit constamment. Et on essaye de s'améliorer. On fait un peu de sport. Parce qu'on pense que faire du sport le matin, ça nous permet de décompresser. Donc quand on arrive au boulot, eh ben le patron, on le voit un peu moins comme un dragon. C'est ça, hein ? On fait du yoga, on suit une religion, on suit toutes sortes de choses pour essayer de s'améliorer, parce qu'on veut vraiment s'améliorer. N'est-ce pas ? Malgré les déceptions, malgré les problèmes. Alors où est Dieu dans tout ça ? Parce qu'on met souvent la faute sur Dieu. S'il y a autant de souffrances, pourquoi Dieu n'intervient pas ? Et 1 Jean, chapitre 3, versets 4 et 5 nous dit « Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu. Car le péché, par la définition, c'est la violation de cette loi. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, par définition, c'est la violation de cette loi. Et Romain nous a bien dit que tous ont péché. Je suis pécheur, vous êtes pécheur. On est tous dans le même bateau. L'humanité, tout le monde est dans le même bateau. Il y a de la convoitise, il y a de la comparaison, il y a de la violence. Alors nous, dans notre société, tout va bien pour l'instant. Mais si ça commence à se gâter, vers où ton cœur va-t-il vriller ? Seras-tu un bon ou un méchant ? C'est peut-être bête ce que je vous dis. Mais imaginez être dans une situation terrible. Quelle sera ta réaction ? Et Jésus, lui, est venu. Il est venu dans un contexte. Il est venu dans un contexte où c'était la mort à tous les coins de rue. Le peuple romain était sanguinaire. Il y avait des guerres de partout. Et lui, il arrive là. On a voulu l'assassiner avant même qu'il naisse. C'est quand même fou. Vous voyez le contexte dans lequel Jésus arrive. Et finalement, Jésus grandit, il vit. Alors imaginez, chers parents, un enfant parfait. Eh bien, c'était Jésus. Pas de crise, pas de colère, tout va bien. Jamais malade. Exceptionnel quand même. Moi, je rêve de ça. Hein. Vous savez, pour vous prouver un petit peu cette dualité qu'il y a dans nos cœurs, moi, j'ai 3 enfants. Vous les avez vus ce matin. Je n'ai pas arrêté de leur dire, ne fais pas ça. Alors, je passe mon temps à leur apprendre le bien. Mais le mal, je n'ai pas besoin de leur apprendre. Hein. C'est inné en eux. Me mentir parce qu'ils ont fait une bêtise, ça vient tout seul. Je n'ai pas eu besoin de leur expliquer. Il y a une dualité dans notre être. Mais quand tout va bien, quand on a notre petite routine, que le travail va bien, que la famille va bien, on n'a pas besoin de Dieu. On n'a pas besoin de Dieu, vous avez entendu. Qui a dit, Stécie qui a dit, j'avais pas besoin de Dieu. J'avais pas besoin de Dieu. Alors Jésus un jour, alors qu'il se promenait, vous savez, Jésus, il aimait se balader de ville en ville. Et les foules, à courir, écouter son enseignement, parce qu'il y avait un enseignement, à l'époque c'était un monde religieux, où on croyait en toutes sortes de choses, alors les Romains ils avaient leurs croyances, les Juifs la leur, et puis les Juifs attendaient le Messie, et puis Jésus arrive et il arrive avec un enseignement qui bouleverse l'humanité, aujourd'hui on en parle encore, et puis Jésus arrive et un jour il y a un homme, un religieux, un Juif qui s'appelle Nicodème, et Nicodème il vient à Jésus, et il lui dit, bien Jésus, il commence à parler avec lui. Et Nicodème était quelqu'un de connu, reconnu parmi les religieux. Il enseignait sa loi, il enseignait la Torah, il enseignait les préceptes de Dieu. Et Jésus rencontre Nicodème. Jésus aime les rencontres. Jésus aime énormément les rencontres. Et lorsqu'il voit Nicodème, il lui dit, dans Jean chapitre 3, versets 3 à 4, Jean chapitre 3, Jean 3, ah voilà, Nicodème lui parle, et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Jésus parle à Nicodème et lui dit, tu as besoin de naître de nouveau. Il parle à un religieux, quelqu'un qui connaît la Bible, qui connaît la loi de Dieu, qui connaît la loi de Moïse. Parce que lorsqu'il y a eu la première désobéissance, Dieu a dit à l'homme, a envoyé la loi, les commandements à l'homme au travers de Moïse. Et il a dit, si tu tues, si tu commets l'adultère, si tu mens, si tu triches, ben moi, j'arrive pas à te voir comme ça parce que je t'ai pas créé. Je t'ai pas créé pour ça. Vous savez, on est en période de Coupe du Monde. Lorsqu'un joueur de foot frappe et shoote dans le ballon et que ça passe à côté ou ça tape le poteau, il c'est pas possible. Ils ont manqué le but. Eh ben, le mot péché, ça veut dire manquer le but. L'humanité est passée à côté de sa destinée. Vous me suivez jusque-là? Et donc, Dieu prévient l'homme. Et il donne la loi. On appelle ça la Torah. D'accord? Avec les commandements. Et il dit, voilà, il faut pas faire ça, 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 parce que moi, je suis un Dieu saint, je vous aime, mais si vous faites ça, moi, je peux plus rien pour vous. Et Dieu prévient l'homme parce que Dieu aime l'homme. Et l'homme continue. Et il envoie Jésus. Et nous avons Jésus qui est sur terre, il n'est pas encore mort. Et il rencontre Nicodème. Jésus, fils de Dieu, rencontre Nicodème, un religieux, je vous répète, qui connaît toutes choses, qui a grandi dans la religion. Et il lui dit, tu as besoin de naître de nouveau. Lui, il se dit, c'est pas possible, mais qu'est-ce que ça veut dire, naître de nouveau? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou! Mais avant, dans le verset avant, il dit, je reconnais que tu es le fils de Dieu parce que autour de toi, il y a plein de choses qui se passent, il y a des miracles, les gens sont bénis, il y a la joie, il y a la paix. Et lui, il lui dit, mais t'as besoin de naître de nouveau. Lui, il retourne à ses parchemins, il a jamais vu ça quelque part. Qu'est-ce que ça veut dire, naître de nouveau? Et ma question, ce matin, c'est, es-tu né de nouveau? Peux-tu me dire, moi, je suis né de nouveau? As-tu une assurance d'être né de nouveau? Comprends-tu ce que ça veut dire être né de nouveau? C'est pas parce que tu nais dans une famille chrétienne que tu es chrétien. Ce serait dire que le fils du garagiste devient garagiste. C'est pas parce que tu crois que Dieu existe que tu es chrétien. Mais tu es chrétien quand tu nais de nouveau. Alors comment naître de nouveau? Alors, je ne vais pas vous raconter l'info du siècle. Ça fait 2000 ans que c'est prêché, comment naître de nouveau. Naître de nouveau, ça veut dire entendre parler de Jésus, comme vous entendez ce matin. Entendre Jésus et dire, Seigneur, maintenant je te reconnais. Je crois par la foi que tu es le Fils de Dieu. Je t'ai pas vu. Je t'entends pas. Je vois pas ce que tu fais. Je comprends rien. Celui qui est en train de prêcher, là, il me dit que des bêtises. Vous voyez? Il est fou. Jésus a été considéré comme un fou. La Bible dit que Dieu a choisi la prédication de la parole de l'Évangile, qui est une folie aux yeux des hommes, pour que l'homme se tourne vers lui. Moi, tous les matins, je prends ma voiture et puis je mets la première. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé, mais la voiture avance. J'ai confiance en ma voiture. Et ma vie avec Dieu, c'est ça. J'ai confiance en mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu deviens le Seigneur de ma vie. Je t'accepte comme mon Sauveur, mais je t'accepte comme mon Seigneur maintenant. Sauvé de quoi? Mais déjà ta propre vie. Si tu veux vivre une paix, une joie, et je ne parle pas de courir après des petits plaisirs charnels, faire ton sport, avoir une belle famille, essayer de construire ta vie, avoir un meilleur job, aller de réussite en réussite. Je te parle d'une joie intérieure où peu importe les circonstances de ta vie, tu ne perds pas ta paix. Ça, c'est ce que Dieu donne à celui qui l'accepte. Il ne te promet pas une belle vie. Il ne te promet pas de devenir riche et de gagner au loto. Mais il te promet la joie éternelle. Il te promet une transformation. Il ne te promet pas qu'il va t'améliorer. Si vous posiez la question à Stacy, à Kenny et Brigitte, ils vont vous dire, mais moi j'ai été transformé. Ma mentalité a changé. Mes pensées ont complètement été renversées. Parce que Jésus est mort à la croix. Je le reconnais. Et sa vie vient en moi. Jésus était considéré comme fou. On l'a pris, on l'a mis à la croix. On a dit, mais si t'es fils de Dieu, descends maintenant de cette croix. Si t'es vraiment le fils de Dieu, il a été frappé, il a souffert. La crucifixion, c'est la mort la plus douloureuse. On vous frappe le nerf ici et vous souffrez. Ça dure des heures. En plus, vous avez été lapidé. Ils lui ont dit, mais si t'es le fils de Dieu, descends maintenant. Voyez le cœur de l'homme, la méchanceté, la haine. Et puis il est mort. Il y a au tombeau. Là, ils se sont dit, ah, on a bien fait. Mais le problème, c'est que 3 jours après, il est ressuscité. 3 jours après, il est ressuscité. Et pendant plusieurs jours, il est venu et il a rencontré ses disciples. Il leur a dit, maintenant, prêchez l'évangile. Parce que les disciples, ils avaient vu les guérisons, ils avaient vu la main de Dieu. Mais dès que Jésus a été crucifié, ils se sont barrés. Parce que c'est le cœur de l'homme. On pense être bon. Mais Dieu nous dit, le cœur de l'homme est tortueux. Et Ézéchiel nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai un nouveau esprit, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ça, c'est la Bible qui dit. Alors, tu peux me prendre pour fou. Moi, j'ai vécu dans une famille chrétienne avec un père pasteur. Vous voyez, il était enflammé ce matin. Il était déjà en train de vous annoncer l'évangile et tout ça. J'ai vu l'exemple, la droiture. Être droit devant les hommes, être droit devant Dieu, mes parents. Et moi, j'ai dit, mais c'est quoi ça? On donne tout aux gens, on bénit les gens. C'est quoi? J'ai dit, les gens, ils nous la font à l'envers et eux, ils donnent. Mais je dis, comment ils font pour faire ça? Et je me suis rebellé contre Dieu. J'ai dit, mais Dieu, moi, je veux pas de toi. J'ai pas besoin de ça dans ma vie. Et puis j'ai fait ma vie. J'ai connu les filles. J'étais pas à la fête, moi. Le sport à outrance. Je faisais 10 heures de sport par semaine. J'avais besoin de me sentir bien. Je courais après des choses. Et j'avais toujours dans ma conscience qui frappait, qui disait, arrête de faire ça. Mais qui a tracé cette ligne rouge dans mon âme? Est-ce que c'est mes parents? Non, parce que j'avais rejeté leur enseignement. Et un jour, j'ai dû dire, mais Seigneur, viens, révèle-toi à moi. J'ai besoin de connaître ton amour. Et un jour, j'étais là. Et un pasteur qui est venu, il a prié pour moi. Et il m'a révélé tout ce qu'il a fait dans mon cœur. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Une folie aux yeux des hommes. Pour moi, l'évangile était une folie. Mais lorsque tu goûtes, ah! Quand tu goûtes, ça change ta vie. Venir à Christ, naître de nouveau, comprenez-moi bien, c'est pas juste intellectuel. Ça nécessite que tu réfléchisses, mais ça nécessite ton cœur. Parce que Dieu cherche le cœur de l'homme et il cherche la foi. Et lorsqu'un cœur se tourne vers Dieu et dit, Seigneur, tu vois ma vie? Tu vois mes faiblesses, peut-être que je suis bien, mais je suis pas parfait, Seigneur, je veux me tourner vers toi, tu vois? Et bien là, il y a la foi qui est suscitée en toi. Et cette foi, c'est le point de contact, la foi en Christ. Cette foi en Christ qui est mort pour toi, c'est le point de contact entre Dieu le Père et toi. Et lorsque cette foi démarre, tu as accès à ton Dieu. Mais c'est pas intellectuel. Nous, les Français, on veut tout comprendre. Moi, je peux vous dire clairement, je ne peux pas vous prouver que Dieu existe scientifiquement. Ce n'est pas possible. Est-ce que je peux me mettre sur un écran? Est-ce que c'est possible? Non. Mais comment peux-tu prouver l'amour d'une mère pour son enfant? Avec un écran? Est-ce que c'est possible? Ben, l'amour de Dieu a été manifesté en Jésus-Christ, à la croix pour toi. Et ce n'est pas des violons que je te joue là. Vous me suivez toujours? Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu, et à ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si ce matin tu me disais « je veux venir à Dieu, c'est ma volonté », eh ben tu ne viendrais pas à Dieu. Il y a ta part, mais c'est Jésus qui t'appelle. C'est lui qui t'appelle. C'est lui qui suscite la foi en toi. C'est lui qui souffle maintenant dans ton cœur. Et ce matin, je fais cet appel comme Jésus l'a fait. C'est tourne ton cœur vers Dieu. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que le passé soit passé. Comment ça se concrétise concrètement aujourd'hui? Quelle est la vie d'un chrétien aujourd'hui? Est-ce que c'est venir à l'église le dimanche? Stécie, hein, c'est venir à l'église le dimanche? Stécie, elle fumait. Je prends Stécie parce qu'elle a témoigné. Hein, tu fumais, hein? Et elle s'est dit, c'est pas bon pour moi. Qu'est-ce que je peux faire? Ah ben tiens, j'ai Jésus avec moi. Combien de fois j'ai essayé d'arrêter, j'ai pas réussi? Bah tiens, j'ai Jésus avec moi. Ça t'a aidé ou pas? Et c'est pas un patch, hein? Jésus est au-dessus de la dépression, il est au-dessus de la maladie, il est au-dessus de toute chose. Ça dépend de ta foi. Tu veux être guéri maintenant, crois en Jésus, tu vas être guéri tout de suite. Ça dépend de ta foi, pas de la mienne, mais de la foi, parce que sa parole, elle est claire. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris de nos relations, aussi les relations néfastes dans la famille. Nous sommes guéris dans notre cœur, de nos souffrances. Nous sommes guéris dans notre chair. Parce qu'il faut pas penser, on l'a entendu, mon cher père vous l'a dit, on est une tente, et c'est le corps aujourd'hui, on est dans la culture du corps, la beauté, l'habillement, la musculature, il faut soulever de la fonte pour être beau, hein, c'est à la mode, hein. No pain, no gain, vous voyez. Et puis, il faut y aller, hein. Moi je vois les gars, ils sont comme ça maintenant, c'est quelque chose, hein. Les filles, voilà, hein. Et puis on soulève, c'est la culture du corps, c'est la culture de la réussite, c'est la culture, c'est aussi notre orgueil, on veut réussir. Mais ça va s'arrêter quelque part. Le corps, tu vas le laisser ici. Et qu'en est-il de ton âme? Ton esprit va où? Alors on vit notre match sur cette terre. Et puis peut-être qu'on fera demi-temps, peut-être qu'on fera demi-temps, ça ne nous appartient pas. Et parfois on manque le but, on shoot, on passe à côté. Et puis parfois on proteste, mais s'il y a une justice, Dieu, pourquoi tu fais souffrir? Et on se fight avec Dieu, mais Dieu, mais je comprends rien. On suit toutes sortes de philosophies, on est dans un combat, et on est susceptible sur le terrain, on va voir l'arbitre, on lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Et à un moment donné, l'arbitre, il va lever son carton rouge, ce sera la fin de ta vie, et qu'est-ce que tu auras fait? Qu'est-ce que tu laisseras ici? Et où est-ce que tu iras? Est-ce que tu auras assuré ton éternité? J'étais dans un magasin et puis je devais acheter une machine à laver. J'avais pas de sous. La machine à laver, elle tombe en panne. Et puis la dame me dit, eh bien écoutez, vous pouvez acheter, j'appelle ma femme et moi je suis toujours à acheter le top. Vous voyez, moi j'achète le top. Et ma femme, elle est raisonnable. Elle dit, mais attends, ce mois-ci c'est pas possible, on achète un peu plus bas. Non mais chérie, il faut acheter le top. Et puis, je voulais une belle 13 kilos, là, vous voyez, qui lave bien. Je dis, je veux honorer ma femme. Elle fait beaucoup de lessive, on a 3 enfants, il faut que ça avance. Et puis, j'étais perdu, je savais pas quoi acheter. Donc j'appelle ma chère femme, et ma femme me dit, bon écoute chérie, voilà, il y a tel budget, de toute façon il n'y a pas de budget, donc tu prends le moins cher et tu prends pas de garantie. C'était clair, hein, voilà, elle a fait le tri. Et puis je vais voir la dame, je reviens, puis je dis, écoutez, c'est simple, je vais prendre la moins chère et sans garantie. Et là elle me regarde avec des yeux comme ça, elle me dit, mais attendez, pas de garantie? Mais comment vous allez faire aujourd'hui les machines à laver, c'est 3 ans, vous avez 3 enfants. Alors moi, je vois bien son baratin, elle essaie de me vendre la garantie, hein, qui est à 109 euros. Moi, j'ai une garantie à 109 euros, 5 ans, mais non, c'est trop cher. Et j'arrive, je dis non, sans garantie. Et là, elle me regarde, elle me dit, bah, écoutez, je peux faire quelque chose pour vous. Elle rentre un petit code dans son ordinateur et d'un coup, le prix de la machine baisse. C'est impressionnant, j'ai rien demandé. Elle fait baisser le prix de la machine, comme quoi, hein, on peut toujours faire baisser les prix. Et puis, du coup, elle me fait, j'ai la machine moins chère avec la garantie à 50 euros. Et je dis, bah, et à la fin, bah, je vais pour payer. Et je dis, vous m'avez bien eu. Vous m'avez vendu une garantie. Mais moi, maintenant, je vais vous vendre la garantie éternelle. Elle m'a regardé, elle m'a dit, mais de quoi vous allez me parler? Je vais vous parler de Jésus-Christ mort pour vous. Parce que cette vie, le travail, c'est bien. Vous voulez passer d'augmentation en augmentation. Mais il y a quelque chose de plus. Alors, on va prier maintenant. Nous voulons naître nouveau. Alors, je vais vous demander de fermer les yeux. Parce que pour certains, vous êtes à l'église, mais normalement, c'est téléfoot. Et ce matin, Dieu, il veut marquer un but avec toi. Parce que Dieu, il n'aime pas les matchs nuls, ça ne l'intéresse pas. La défaite, on n'en parle pas. C'est la victoire, on l'a chanté. Dieu glorieux. Alors on va fermer les yeux. Et on va tout simplement prier. On va prier le Dieu vivant, le Dieu du ciel et de la terre. Prépare ton cœur maintenant. Prépare ton cœur et tu dis, Seigneur, moi, ce matin, je veux entendre ta voix. Ce matin, je veux entendre ta voix, Seigneur. Alors pourquoi on ferme les yeux? Parce que la vie va tellement vite. Les seuls moments où on est au calme, c'est quand on est devant notre télé en train de végéter. Mais parfois, il faut pouvoir faire le calme intérieur. Et là, tu appelles ton Créateur. Tu dis, Seigneur, si tu existes, eh bien, je suis là. Tu dis, Seigneur, si tu existes, je suis là. Alléluia, Jésus, maintenant, tu commences à agir dans chaque cœur, dans chaque vie maintenant. Dieu de vie, Dieu de toute puissance, Dieu de toute autorité. On est comme Nicodème ce matin et on dit, comment est-ce que je peux rentrer dans ton royaume? Comment? Seigneur, tu nous as dit, c'est par la foi en Jésus-Christ. Par la foi. Alors maintenant, tu commences à susciter la foi. Seigneur, dans chaque vie, suscite la foi, Seigneur. On n'est pas là pour prêcher une religion, une méthode. Mais Jésus-Christ, celui qui a impacté la terre, Jésus, viens simplement, commence à passer dans les rangs. Jésus, on est là. On est là ce matin. Saint-Esprit de Dieu, viens dans ce lieu. Travaille nos vies, travaille nos cœurs maintenant. Alors Seigneur, que nous repassons notre vie devant nos yeux, que nous faisons une introspective sur nos objectifs, nos motivations. Père, parle-nous. Parle à nos cœurs dans la simplicité. Tu es un Dieu simple, ton évangile est simple. Tu es venu, tu as choisi 12 pécheurs pour sauver l'humanité. Jésus. Alléluia. Ce matin, on veut reconnaître nos faiblesses. On veut reconnaître qu'en nous, il y a cette dualité, Seigneur. On veut reconnaître que parfois, on ne fait pas les bons choix. Parfois, on ne fait pas les bons choix. Mais ce matin, Jésus, on veut suivre ta voix, entendre ta voix simplement. Simplement, tu passes, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Jésus visite maintenant. Ce n'est pas une question d'émotion, Seigneur. C'est la vérité qui touche nos cœurs, qui frappe à la porte. Jésus, viens. Jésus, de gauche à droite, de droite à gauche, que les cœurs les plus endurcis par la vie, Seigneur, soient touchés. Seigneur, tu connais nos faiblesses, tu connais notre passé, tu sais ce qu'on a vécu, tu connais nos frustrations, tu connais nos déceptions, tu connais toutes choses, mais tu es en train de crier, mais je t'aime. Viens à moi, viens à moi, viens à moi. Viens à moi maintenant. Alléluia, Jésus te dit, viens à moi, viens à moi. J'ai les solutions pour toi. C'est une question de vie ou de mort. Saint-Esprit, Saint-Esprit, agis. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Seigneur, tu sondes. Tu transperces les vies, Seigneur, et les cœurs. Alléluia, Seigneur, viens simplement maintenant. Jésus, 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 Jésus. Jésus, viens simplement. Jésus, en toute simplicité, Seigneur. Jésus, viens.